Je vais vous parler de la collapsologie. Alors, je suis un peu désolé parce que ces derniers jours, la météo n'est pas très, très folichonne. Ça donne pas vraiment le moral. Et moi, je vais en remettre une couche, là. Parce que vraiment, le sujet, il a tout sauf... Enfin, il est vraiment démoralisant. Quoi. Voilà. Mais, après tout... collapsologie, c'est un mot qui a été introduit il y a 2 ans par Raphaël Servigne et Stevens. On va voir son nom, j'ai oublié. Raphaël Stevens. Oui, c'est Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans un livre que j'ai lu il y a 2 ans et ce qui m'a donné envie d'approfondir un peu le sujet. C'est un mot qui est construit à partir du latin collabi, qui a donné collapsus, qui est utilisé en médecine. Alors, si j'ai bien compris, c'est les chutes, l'effondrement de la tension, truc comme ça, et qui a donné en anglais le verbe to collapse, qui est s'effondrer. Donc, la collapsologie, c'est l'étude, en l'occurrence, là, c'est l'étude de l'effondrement de la société industrielle. Alors, pourquoi en parler aujourd'hui? Il y a ce livre de Pablo Servigne et de Raphaël Stevens, mais il y en a eu d'autres avant et il y en a eu d'autres après. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est en train de monter. On commence à se soucier de ça. D'ailleurs, à mon grand étonnement, il y a au moment des vacances de février, je ne sais plus, j'étais en Suisse, j'ai retrouvé une amie qui est prof d'informatique à l'école polytechnique de Lausanne, qui est une spécialiste de l'informatique et de la sécurité informatique. Et quand je lui ai dit que je préparais un exposé, comme si, il me dit « Ah ouais, moi aussi ». Et elle travaille sur ça sous l'angle de l'informatique. C'est-à-dire l'étude de l'effondrement des sociétés industrielles due à la complexité, à la vulnérabilité de l'informatique dans nos sociétés. J'essaie de... Vous m'entendez au fond ou pas? J'essaye. Donc il y a... Il y a eu plusieurs ouvrages. Le plus ancien, enfin, il date quand même de 2003, c'est The Collapse, vous l'avez d'ailleurs, The Collapse of Complex Societies, de Joseph Tainter, je crois. Le plus connu, c'est celui de Jared Diamond, Effondrement. Et je vais dire un mot de chacun de... Enfin, plus qu'un mot, d'ailleurs, de chacun de ses livres. Celui de Pablo Servigne et de Raphaël Stevens. Dernièrement, aux éditions Utopia, il y a un livre qui est sorti aussi, qui est de Renaud Duterme, qui est sorti en 2017. Il y en a encore un qui vient de sortir, là, en 2018, en mars, de Paul Jorion, qui s'est fait une réputation parce que c'est un économiste. C'est un des très rares économistes qui avait prévu la crise de 2008. Donc aujourd'hui, dès qu'il ouvre la bouche, on se dit « Ah, tata, c'est intéressant ». Dans ce que je vais présenter, je me suis appuyé, je me fais beaucoup aider par. Je me suis appuyé à la fois sur des extraits vidéo d'un film qui s'appelle Le crash pétrolier, le réveil sera cruel, qui a été diffusé sur Arte en 2017, mais en fait, qui est ancien, qui est de 2006. Même s'il est 2006, ce qui est dit là-dedans est d'une actualité totale. Il y a simplement certains chiffres qui ne sont plus tout à fait actuels, mais qui le redeviendront. En gros, il parle du baril de pétrole à 100 $. Il n'est plus à 100 $, mais on est certain qu'il va remonter à 100 $ et probablement largement au-delà. Et ensuite, je me suis appuyé aussi sur des conférences, enfin sur une conférence et d'autres travaux de Jean-Marc Jancovici, une conférence qu'il a donnée à la Cité des Sciences en novembre 2017, qui est « À quand la rupture énergétique ?». Alors je me suis appuyé sur lui parce que il fait des conférences grand public, c'est un pédagogue hors pair, donc il explique bien mieux que je ne pourrais le faire certains points clés de cet exposé. Alors, Jared Diamond, lui, il a essayé de voir s'il y avait des points communs dans les effondrements des différentes civilisations qui sont listées là, les cités mayas, les sociétés moches, Tiwanaku, les sociétés mycéniennes, encore l'île de Pâques, etc. Il a essayé de voir, pardon ?
Les vikings.
Les vikings aussi. Et enfin bon, ça, celles qui sont là font partie de celles qu'il a étudiées dans son livre. On voit, est-ce qu'il y a des points communs? Alors il en a relevé un certain nombre. Ceux-là, il a donc la déforestation, les problèmes liés à la détérioration des sols, que ce soit la salinisation, la perte de fertilité, la gestion de l'eau, la chasse excessive, La pêche excessive, déjà, dans ces sociétés-là, l'introduction d'espèces halogènes et la croissance démographique. Alors ça, c'est le travail qu'il a fait sur les sociétés passées. Puis c'est quand même un peu interrogé dans son bouquin sur notre société. Et il a rajouté plusieurs points. Il a rajouté le changement climatique, la pollution, l'émission de produits toxiques dans l'environnement, les pénuries d'énergie et l'utilisation excessive de la capacité maximale photosynthétique de la Terre. L'exposé que je vais faire va surtout parler du point numéro 3. Et je vais vous dire pourquoi. Enfin, vous allez très bien voir pourquoi. L'énergie. Ce qui est illisible, c'est pénurie d'énergie. Il ne faut jamais mettre des trucs en couleur. Alors, l'effondrement, qu'est-ce que c'est? Alors, quand on dit l'effondrement, c'est un terme qui est tellement, subjectif, qu'il faut donner certaines définitions. Darrell Diamond, lui, il donne ça comme définition. Il dit c'est pas la fin du monde, mais c'est une baisse significative du niveau de vie, le risque de disparition de valeurs fondamentales, et puis des guerres engendrées par l'insuffisance de ressources naturelles. On va voir une autre définition un peu plus loin, qui à mon avis est plus précise et qui colle un peu mieux à la haute société industrielle actuelle. Paul Jorion, lui, Paul Jorion, ce qui est intéressant, c'est qu'il met en avant le risque systémique, c'est-à-dire que dans un système complexe, si un des éléments faillit, il peut faire écrouler tout le système. L'effondrement de Lehman Brothers en finance était à deux doigts de faire écrouler la totalité du système financier. Et d'une manière très vulgaire ou populaire, c'est le grain de sable dans un moteur. Quand vous mettez un grain de sable dans un moteur, si il bouge un gicleur, vous allez avoir un allumage parfait, un embiellage parfait. Système complexe que est le moteur, il va s'arrêter, il ne va plus fonctionner. Donc il pointe le risque systémique. Il parle aussi évidemment de la dégradation environnementale. Il parle de ce que j'évoquais tout à l'heure, de la complexité non maîtrisée du transfert des décisions vitales à l'ordinateur et du système économique et financier qui, pour lui, va à la dérive. Renaud Duterme, il pousse tout ça un peu plus loin parce que lui, il fait une analyse qui est très politique. Donc il met en avant l'insoutenabilité écologique du développement de nos sociétés, mais aussi insoutenabilité sociale et financière. Contrairement à ce qu'on entend beaucoup, on parle de dire on est dans une crise. Il dit non, c'est pas une crise. Une crise, ça veut dire qu'on va revenir au statu quo ante. Il dit non, on ne reviendra jamais au statu quo ante. On n'est pas dans une crise. On est dans un phénomène de changement radical. Il montre que c'est pas le seul, que les causes écologiques sont corrélées avec les inégalités sociales. Il est un peu marxiste dans son propos. Il ramène quand même la lutte des classes dans ses démonstrations. Et il met en cause la démesure du productivisme et de l'extractivisme en pointant bien le fait que c'est pas unique. Il ne suffit pas de dire que c'est le capitalisme qui fait ça, mais parce qu'en Union soviétique ou en Chine, qui n'était pas spécialement, enfin pas la Chine d'aujourd'hui, mais qui n'était pas. Pardon ? Extractivisme, c'est l'extraction excessive des minerais du sol. Dans des sociétés qui n'étaient pas capitalistes, ils ont fait pareil, voire pire. Le premier, Joseph Tainter, lui, c'est plus une vision un peu romantique. Il nous rappelle la dernière phrase qui est intéressante, qu'il n'a jamais imaginé une mégalopole américaine avec ses gigantesques gratte-ciels symbolisant la surpuissance capitaliste dans laquelle les arbustes engendrent un nouveau sous-sol et où le lierre gravit les 6 étages des immeubles d'habitation et les magasins abandonnés. Donc lui, c'est assez poétique, c'est pas le mot, mais lyrique. Alors Yves Cochet, qui a été ministre de l'écologie, je crois, c'était son titre, enfin, qui était écologiste, il faisait partie des Verts, donne une définition de l'effondrement qui me paraît beaucoup plus précise que celle de tout à l'heure. Il dit « L'effondrement survient quand les besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, énergie, mobilité et sécurité ne sont plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. C'est très carré et on va voir qu'effectivement, plus loin, que l'effondrement va conduire à remettre en cause certains de ces services qui sont en fait essentiels à la vie dans nos sociétés actuelles. Donc là, après, il développe un peu en disant, bon, il donne des exemples. Je n'ai pas regardé l'heure. Bon, enfin, il développe par des exemples ce qui vient d'être dit là. Et à travers ce que je viens de dire, on voit qu'en fait, la collapsologie, elle est au carrefour d'un grand nombre de disciplines qui sont l'écologie, certes, évidemment, l'économie, la climatologie, l'histoire, la sociologie, la démographie, mais aussi la physique, la géologie et, je dirais même, les mathématiques. Dans l'exposé que je vais montrer, on va surtout parler de la physique, de la géologie et des mathématiques. Et la géologie, genre. Donc, dans la vidéo qui suit, c'est un extrait du film que j'ai signalé, Le crash pétrolier. Le réveil sera cruel. C'est un film qui a été primé dans de nombreux festivals de documentaires. Ça donne le ton.
Alors. Chômage en hausse, pauvreté, faillite, famine. Or, il arrive des tas de choses quand une société s'effondre. On va entrer dans un monde totalement nouveau. On va passer dans une autre dimension. Et ce, dans quelques années à peine.
Un baril de pétrole raffiné, soit environ 160 litres d'essence, se vend un peu plus de $100. Il contient autant d'énergie, autant de travail, qu'en fournit 12 hommes pendant une année.
Il faut 25 000 heures hommes de travail physique pour produire la quantité d'énergie contenue dans un seul baril de pétrole. En Irak, extraire un baril du sol peut revenir à $1. En investissant $1, on obtient donc 25 000 heures de travail humain. Le pétrole est une source d'énergie si dense qu'elle est quasiment gratuite.
C'est sans doute la plus inestimable des ressources naturelles jamais découvertes.
Donc là, on commence à voir pourquoi le pétrole est une énergie hors norme, enfin au-dessus de toutes les autres. Et on commence à attaquer le terme de l'énergie. Alors, l'énergie, c'est une unité qui n'est pas intuitive. Si je vous dis qu'est-ce que c'est qu'un mètre ? Un mètre, c'est ça. Ouais. Un kilomètre, on sait ce que c'est. On sait même qu'entre Paris et New York, il y a 6000 kilomètres. Donc c'est une unité sans problème. Un kilo, un litre d'eau, un litre de lait, une personne pèse 70 kilos, bon, pas de problème. La seconde, on sait très bien, hein, une seconde, une minute, une heure, on va passer une heure et demie ensemble, on n'a aucun souci là-dessus. La température, en degrés, c'est bien que se baigner dans une mer à 24 degrés, c'est pas tout à fait pareil que se baigner dans une mer à 14 degrés. C'est vraiment pas pareil. Alors maintenant, je vous pose la question, un kilowatt, vous me l'illustrez comment ? Hein ? Non, non, mais là, j'ai donné des exemples concrets. Concrets. Concrètement, un kilowatt, c'est quoi ? Pardon ?
Par deux minutes d'électricité.
Je sais pas comment. Ah non, c'est pas. Non. Donc en fait. Non, non, mais c'est. Là, tout ce que j'ai donné comme exemple, c'était des éléments concrets, quoi. Là, en énergie, on est vraiment pour.
Une lampe de salon qui fonctionne pendant 4 heures.
Le nombre de.
Des lampes de salon qui fonctionnent pendant 4 heures.
Ouais, enfin bon, alors vous allez en avoir une idée. Vous allez en avoir une idée un peu plus précise, extrêmement concrète. Et d'abord, la nature de l'énergie. Et on va voir que l'énergie, c'est ce qui permet de transformer le monde. C'est comme ça que l'homme agit sur le monde extérieur. Donc là, il y a quelqu'un qui explique ça très bien. C'est ce monsieur.
Oui, non, mais c'est pareil. Donc en fait, l'énergie, c'est par définition ce qui caractérise la transformation du monde.
Attends, on en...
C'est,
ça,
c'est dire. L'énergie, c'est ce qui caractérise, qui quantifie les événements d'intérêt. De l'énergie va entrer en jeu dès que vous allez modifier une température, une forme, une vitesse, une couleur, n'importe quoi. Dès que vous avez une transformation dans le monde qui vous entoure, vous avez de l'énergie qui entre en jeu. Et cette énergie, vous allez la faire entrer dans ce qu'on appelle un convertisseur, c'est-à-dire une machine qui va la prendre sous la forme sous laquelle elle l'absorbe et en faire autre chose. Alors si la machine c'est vous, vous rentrez l'énergie sous forme chimique, c'est l'énergie contenue dans les aliments, et vous allez en faire deux choses, de la chaleur parfaitement renouvelable, votre corps à 37 degrés, et un peu de mouvement, pas beaucoup en fait si vous regardez en part relative dans l'énergie qui sort de votre corps, c'est essentiellement de la chaleur. Alors au début donc, le seul convertisseur auquel les hommes ont eu accès, c'était eux-mêmes. Donc moi, on me rentre de la nourriture dans le Gargamel et je suis capable d'en ressortir de la chaleur, du mouvement. Avec le temps, quelques brillants ingénieurs ont trouvé d'autres convertisseurs énergétiques capables d'utiliser d'autres sources d'énergie que les hommes, encore une fois, ne peuvent pas exploiter en direct.
On va développer ce point. Donc là, je reprends ce qu'il a dit, l'énergie est ce qui permet d'agir sur le monde, et les convertisseurs. Donc quels sont les types d'énergie qu'on rencontre? Vous avez l'énergie chimique, c'est les aliments, et les convertisseurs c'est l'homme, les animaux. Ça peut être les moteurs thermiques qui transforment l'essence en mouvement mécanique. L'énergie hydraulique avec les barrages, l'énergie éolienne, les voiliers qui se déplacent avec le vent, les moulins, les éoliennes. Le solaire, les cellules photovoltaïques ou les fours solaires. L'énergie marine, on a les hydroliennes, les usines marémotrices. Il y en a même usines qui utilisent les vagues. L'énergie nucléaire, etc. Donc on voit qu'à chaque type d'énergie, on associe ce qu'il a appelé un convertisseur qui permet de transformer les énergies en quelque chose, en autre chose qui peut être du mouvement mécanique ou d'électricité. Alors, avant la société industrielle, qu'est-ce qu'on avait comme source d'énergie et comme convertisseur? On avait l'eau qui activait des moulins, ça donnait une énergie mécanique. En énergie mécanique, ça permet de faire de la farine et d'autres choses. Le bois, qui était très important puisqu'il permettait de faire cuire les aliments, mais aussi de forger. Le vent, pareil, qui activait des moulins. Hein, la chimie, où les hommes et les animaux le transformaient. Depuis l'Antiquité et même avant, les convertisseurs qui existaient pour utiliser les énergies naturelles qu'il y avait dans la nature n'ont pas beaucoup changé. Ça n'a quasiment pas évolué jusqu'au début de la révolution industrielle. Et on produisait, le nombre d'objets produits était limité, parce qu'encore une fois, produire des objets, c'est transformer la nature, c'est travailler la matière. On était limité par la capacité des convertisseurs qu'on avait. Et puis, alors, arrivait la révolution. La révolution, c'est ça. C'est ça qui a complètement transformé la société, enfin, les sociétés humaines qui l'ont adoptée. Alors, pour plus de poésie, je vous ai rajouté une petite vidéo très courte. C'est une machine à vapeur. Voilà. Ça, j'ai filmé ça il y a 2-3 ans là, à Saint-Giron, où il y avait des fous d'un mécanique qui avaient remis en service des machines à vapeur. Et en fait, c'est de ça qu'est née la révolution industrielle. On voit sur cette photo, si on va de haut en bas, des tracteurs agricoles. En haut, il y a des moissonneuses-batteuses à vapeur. Il y a eu des autobus, des trains, c'est ça. Et on voit même un tricycle, là, un peu plus loin. Là, les photos les plus intéressantes, pour moi, c'est celles qui sont les ateliers qu'on voit là, sur la partie gauche. L'énergie était distribuée. Il y avait donc une machine à vapeur qui produisait du travail. Et ce travail était distribué dans l'atelier par des arbres et des courroies en cuir qui amenaient le travail mécanique à chaque poste de travail. Et on voit sur ces photos la révolution industrielle. Ça vient qu'avant, un artisan, il travaillait sur son atelier, il était tout seul, ou il y en avait peut-être un collègue à côté. Mais là, on commence à aligner des dizaines et des dizaines, voire des centaines de personnes qui ont le travail mécanique de la machine, la puissance de la vapeur, qui vient à leur poste de travail. Et ça, ça veut dire qu'on est en train de quitter les ateliers pour créer les usines. Donc, rappel rapide, parce que la machine à vapeur, c'est celle qui a été vraiment efficace, c'est Watt. Donc ça remonte quand même vers la fin du 18e. Donc la machine à vapeur, elle a permis de faire développer des forces considérables que ni l'homme ni les animaux n'étaient capables de développer. Donc à partir de ce moment-là, on a pu travailler des blocs de métal très épais avec des presses à vapeur, faire du transport de marchandises, les voiliers ont été remplacés par des steamers, on a créé des trains, les récoltes motorisées ont commencé, on a commencé à faire des moissonneuses batteuses, des tracteurs, des trucs comme ça. Moyen en quoi, en faisant ça, on a créé la société industrielle. Alors, ce qui n'est pas lisible, c'est ce qui est plus important, c'est que les moteurs à vapeur ont permis la production de masse. Donc, les ateliers artisanaux ont été remplacés par les manufactures, et on est passé d'une société à dominante agraire à une société industrielle, et tout ça a affecté profondément l'économie, la politique et la vie sociale de nos sociétés. Ça a commencé avec la vapeur, mais après ça a continué, ça a accéléré, vous savez tous, avec le pétrole, l'électricité et l'automobile est d'une nature différente, mais en fait c'est un convertisseur d'énergie qui s'est multiplié d'une manière assez incroyable. Donc ça fait partie de la révolution industrielle. Je ne sais pas si vous avez une idée du nombre d'automobiles qui circulent dans le monde aujourd'hui. Un chiffre ? Un milliard. Et les projections à 2040, c'est... Enfin, les projections à 2040, c'est 2. Donc 2 milliards d'automobiles. Il y en a 1 milliard, 2 milliards. C'est pour ça que... Bon. Non. Donc dans la vidéo suivante, je reprends la présentation de Jean Covici, qui fait le lien justement entre la concentration d'énergie qu'il y a dans le pétrole et le travail des moteurs thermiques, des machines.
Alors ces machines, elles nous ont permis de devenir des surhommes pour de vrai. Donc Monsieur Nix en voulait, nous voici. Et je vais vous montrer ça avec un petit calcul très simple qui va comparer l'énergie mécanique capable de sortir de vos jambes, les vôtres, hein, le plus musclé sur terre, ce qu'une machine est capable de nous fournir. Alors je vais vous prendre, vous, avec vos jambes, et là c'est un exercice, je suis sûr, il y a plein de gens dans la salle, vous êtes jeunes et en bonne santé, qui l'ont fait, donc vous mettez votre carcasse sur 2000 mètres de dénivelé, hein. Et bien à la fin de la journée, vous aurez restitué, grâce à vos jambes, un ridicule demi-kilowattheure d'énergie mécanique. Un ridiculissime, devrais-je dire, demi-kilowattheure d'énergie mécanique. Tout petit. Nous sommes tout petits. Donc si nous n'avions pas les machines pour agir sur l'environnement, on n'aurait pas de problème avec. Si vous faites ça un jour sur deux, ou pour ceux d'entre vous qui connaissent, vous faites une étape du GR20 tous les jours, voilà, du 1er janvier au 31 décembre. Et bien à la fin de l'année, vous aurez fourni 100 kWh d'énergie mécanique avec vos jambes. Donc si je mets quelqu'un au travail de force pour modifier de la matière, poser les trous, scier les arbres, les transporter, etc., planter du blé, whatever, eh bien, cette personne va pouvoir vous fournir dans l'année 100 kWh de transformation de l'environnement, puisque je vous ai dit que l'énergie, c'est par définition la transformation de l'environnement. Si maintenant je prends M. Schwarzenegger, que vous allez avoir du mal, et que je lui demande, enfin que je lui demande quand il était jeune, de me décaisser 15 tonnes de terre tous les jours, avec les bras, un peu avec le dos, ça va faire mal, eh bien, il est 10 fois plus ridicule que mon alpiniste qui précède, puisque à la fin de la journée, il aura restitué 0,05 kWh d'énergie mécanique. À chaque fois, le calcul que j'utilise, pour ceux d'entre vous à qui ça ne fait pas peur, c'est E égale FGH. Simplicité limite. Et s'il fait ça un jour sur deux, parce qu'il faut quand même qu'il se repose un peu, eh bien, à la fin de l'année, il m'aura fourni 10 kWh d'énergie mécanique. Eh bien, 10 kWh d'énergie, non pas mécanique, mais thermique, c'est ce que j'obtiens en brûlant un litre d'essence. Donc, dans un litre de pétrole qui vaut le prix scandaleusement cher d'un euro quelque chose, scandale, hein, scandale absolu, eh bien, vous avez 10 kWh d'énergie thermique, donc de chaleur, et cette chaleur, vous allez la transformer en mouvement dans un moteur, et M. Carnot a dit, pas de chance, vous n'aurez pas 10 kWh de mouvement à la fin, c'est interdit, vous en aurez entre 2 et 4. C'est déjà pas mal, parce que ça veut dire que dans un litre d'essence qui vaut le prix scandaleux d'un euro quelque chose, vous avez la même capacité à transformer l'environnement, c'est ça que ça veut dire, la même, que ce que vous avez dans 10 à 100 jours de travail de force dans l'individu. Donc en fait, l'énergie ne vaut rien. Elle n'est pas chère. Elle n'est pas scandaleusement chère. Elle est scandaleusement gratuite. Quand on comprend, c'est pour ça qu'on s'est mis à se coberger avec. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est scandaleusement gratuit, on y viendra un peu plus tard. C'est pas juste parce que nous sommes des pervers comme moi. Si je compare en termes économiques ce qu'il me faut payer pour extraire un kilowattheure de l'environnement, un kilowattheure d'énergie mécanique de l'environnement, si je passe par un homme, une femme, je vais payer quelques centaines à quelques milliers d'euros par kilowattheure mécanique extrait de l'environnement si j'utilise une carcasse humaine, en la payant au SMIC, alors que dans le même temps, si j'extrais ce kilowattheure de l'environnement avec une machine qui fonctionne au pétrole, si je transforme l'environnement autour d'un kilowattheure, pour être précis, eh bien, ça va me coûter moins d'un euro, beaucoup moins d'un euro, de l'ordre du dixième d'euro. Dit autrement, quand je passe de l'homme qui fait des trous avec ses mains à la machine, tractopelle par exemple, qui fait des trous avec l'énergie, eh bien, je suis capable d'appliquer un facteur diviseur de quelques centaines à quelques milliers sur le coût unitaire d'une transformation de l'environnement. Et voilà pourquoi vous êtes dans cette salle. Parce que, at no cost, les machines ont travaillé pour vous, pour construire vos logements, vous déplacer, vous nourrir, vous chauffer, vous habiller et faire le smartphone dont vous ou vos enfants rêvent. Voilà. Gratos, tout ça. Quasiment gratos.
Bon, voilà. Ce qu'il montre là, c'est que le niveau de vie, le confort, la manière dont on vit aujourd'hui, on le tient de machines qui elles-mêmes consomment de l'énergie.
Alors, c'est réducteur.
Pardon ?
Très réducteur, mais...
Oui, mais on a dit que tu seras prêt.
C'est l'extraction du coltan.
Pardon ?
La construction, par exemple, des smartphones, donc l'exemple qu'ils donnent, l'extraction du coltan, des minerais, elles sont faites par des enfants.
Non, mais
on l'a... Ben oui, non, mais...
Ouais, ouais.
Et en fait, on ne peut pas faire comme si il n'y avait que des machines.
C'est renom du terme, ça. Mais on en parlera après.
Renom du terme, mais sinon, c'est
comprendre le... On en parle... Alors, du point de vue physique, alors, puisque il y a un contradictoire, du point de vue physique, c'est inattaquable. Voilà. Ce qui est dit là, c'est inattaquable du point de vue physique. Après, on peut faire des interprétations et on peut débattre. Tout ce qui est dit là prête largement à débat, puisque je l'ai dit au début, il y a beaucoup d'autres aspects qui sont à prendre en compte. Mais on se défausse, on continue sur cet angle-là, volontairement cet angle-là.
Mais Philippe, tu es d'accord quand même que c'est pas un scoop, parce que c'est là-bas, c'est le B.A.B.A. de la compréhension de la révolution industrielle basée sur l'énergie.
Ça peut être
un scoop
énormément
de gens. Si, c'est un scoop. Je suis désolé, oui. C'est un scoop pour beaucoup de gens, moi c'est un scoop pour moi.
La plupart des gens ignorent déjà que le litre d'essence à la pompe coûte moins cher qu'en 1973 avant le choc de
l'économie. Le scoop. Non, non, attends, le scoop dans le cas dans ce qu'on présente là, ce sont les ordres de grandeur. Tout le monde sait, mais les ordres de grandeur, personne ne les a. Or, les ordres de grandeur, c'est ce qui change tout. C'est pas pareil quand tu as 10 francs ou 10 euros ou 10 milliards d'euros. Ça, c'est vraiment pas pareil. Ça. Et donc, on est dans cette problématique.
Oui, de toute façon, le but, c'est pas de faire du scoop, c'est de comprendre.
Mais c'est justement pour comprendre. Pour comprendre, c'est essentiel. C'est essentiel de comprendre que ce qui est en jeu, ce sont les ordres de grandeur. Donc voilà, les sociétés naturelles reposent sur l'utilisation d'énergie quasi gratuite lorsqu'on les compare au travail humain. C'est pas du tout l'idée que la plupart d'entre nous ont. On n'a pas du tout l'impression que l'énergie est gratuite. Loin de là. Donc les calculs, je les ai refaits. Ce qu'il a dit là, c'est donc il dit j'utilise la formule égale MGH. Donc je me suis refait les calculs de Ce qu'il a dit, évidemment, ça tombe, c'est carré. Donc là, je ne vais pas revenir parce que c'est le même calcul qu'il a fait et j'arrive à peu près à pratiquement à la même chose. Alors il a introduit une idée intéressante. Il y a une erreur dans le schéma, il y a une inversion. Son idée, c'est de dire, ben, puisqu'un homme, il dépense tant de kilowattheures, par jour de travail ou par année, on va regarder qu'est-ce qu'on consomme, nous, pour vivre en termes d'énergie. Et puis on va dire, ben, si cette énergie n'était pas fournie par le pétrole, le charbon, le nucléaire, etc., mais s'il fallait que ce soit des hommes qui le fassent, ben, ça ferait combien d'hommes ? Et donc il prend chaque domaine, il dit, pour se nourrir, l'agriculture, ben, on a chaque jour 21, ils appelaient des esclaves, des équivalents esclaves, 21 personnes. Là, il y a une inversion, c'est au chaud des cuissons, c'est l'inverse, non, c'est pas là. Si ça marche, c'est 3. Mais électricité hors chaleur, l'électricité non spécifique, en fait, c'est le chauffage. Là. Chauffage, 27 personnes. L'électricité non spécifique, c'est-à-dire ce qui sert à utiliser, à faire fonctionner les ordinateurs, la télévision, la lumière, les pompes, etc. Donc, ça, c'est 9 personnes. Les pertes en ligne du système énergétique, bon, il y a 5 personnes. Hein. Les objets qu'on a, donc, qui nécessitent des procédés industriels, 25 personnes. Le transport, 28. En gros, on a 120 personnes qui travaillent pour nous tous les jours pour vivre avec le niveau de vie qu'on a. Alors, c'est un calcul. Ce calcul, c'est pas le seul à l'avoir fait. Il y en a d'autres qui l'ont fait. J'ai trouvé plusieurs sources. Les résultats varient. On s'en fout. Les ordres de grandeur sont là. C'est-à-dire, l'ordre de grandeur, c'est qu'on a entre 100 et 200 personnes, plus de 100 personnes, enfin équivalents, qui travaillent pour nous, ce qui n'était pas le cas au Moyen-Âge, sauf si on était un hobereau ou un roi, où on avait des gens qui travaillaient pour nous. La plupart des gens, non. Ils travaillaient, c'était leur travail quotidien qui apportait leur niveau de vie. Ben, nous, non, on a ça. Aujourd'hui, quand on a une voiture de 10 chevaux, au sens cheval-vapeur. Un cheval-vapeur, c'est 736 watts, et c'est l'équivalent de la puissance d'un cheval, un vrai cheval. Ce chiffre, il a été trouvé comme ça. Donc, on a une voiture de 10 chevaux, c'est-à-dire qu'on se déplace dans un carrosse attelé par 10 chevaux. Qui avait des carrosses ? Nous, on a tous ça. Avant, non, on n'avait pas. Donc voilà, on est dans une société de richesse et de confort qui repose sur tous ces convertisseurs d'énergie. Et on va parler du cas particulier du pétrole. Alors le pétrole, c'est un peu la reine des énergies. Pourquoi ? Parce que sous un volume extrêmement réduit, on l'a vu, il contient énormément d'énergie. Et en plus, il est facilement transportable. Et enfin, il est très peu cher, il est quasiment gratuit. Et là, on prend un petit passage du film sur le crash pétrolier.
70% des barils de pétrole sont transformés en carburant pour les transports, à savoir essence, gazole, kérosène, fioul ferroviaire et fioul maritime. 98% de l'énergie utilisée dans les transports est dérivée du pétrole.
La fabrication d'une voiture standard consomme l'équivalent de 27 à 54 barils de pétrole selon les estimations. La fabrication d'un ordinateur de bureau consomme 10 fois son poids en combustible fossile. Celle d'une puce électronique, 630 fois son poids. Pour chaque calorie ingérée aux États-Unis et dans les autres pays industrialisés, on dépense 10 calories d'énergie issues des hydrocarbures.
Bon, ça c'est un rapide rappel de ce que, effectivement, vous savez tous, mais là encore une fois, avec quelques chiffres qu'on n'a en général pas en tête. Cela dit, le pétrole, il a un gros défaut, c'est que il est constitué par un stock qui est fini, qui n'est pas infini. Et donc, des mathématiciens, des physiciens, etc., sont arrivés à la notion de pic. Alors, la notion de pic, elle est très bien expliquée encore une fois par ce brave monsieur. Là.
Quand vous tapez dans un stock de départ qui est donné une fois pour toutes et que vous ne pourrez plus jamais réalimenter, les mathématiques vous disent que vous n'avez pas le droit d'avoir en provenance de ce stock une consommation indéfiniment croissante. C'est interdit. Sinon, le stock serait infini. D'accord ? Vous n'avez même pas le droit d'avoir une consommation indéfiniment constante. Même ça, les mathématiques vous l'interdisent. En fait, les mathématiques vous disent qu'en pareil cas, vous n'avez qu'une seule forme globale de courbe qui est autorisée, c'est que si vous remontez suffisamment loin dans le temps, la consommation est nulle. Si vous allez suffisamment loin dans le temps, la consommation sera de nouveau nulle, et quelque part entre les deux, elle passera par un maximum absolu. Que dans le jargon des gens qui s'intéressent au pétrole et par extension aux ressources naturelles non renouvelables, on a coutume d'appeler le pic. Alors le pic s'applique, ou s'appliquera au pétrole, au gaz, au charbon, mais il s'applique aussi, ou s'appliquera alors à l'étain, au tungstène, au chrome, au vanadium, au fer, à la bauxite et à la potasse. Tout. Pic pour tout le monde. Pas de jaloux. Dès lors que vous avez une ressource de départ non renouvelable, vous aurez un maximum absolu à l'extraction de cette ressource. Ce n'est pas une idéologie, c'est un théorème de maths.
C'est un théorème de maths. Ce théorème, il a été mis en valeur en 1956 par un monsieur Hubert, et on a appelé, dans le jargon pétrolier, le pic de Hubert. Et cette courbe montre cette notion de pic. Les points, ce sont c'est la production du pétrole
norvégien
qui a atteint son pic de production en 2001. Il y a d'autres chiffres qui ont été donnés. Là, c'est ceux de l'ISP. On voit en vert les découvertes. Alors, c'est plus ce qu'on sort, c'est ce qu'on découvrait comme source de pétrole dans la terre, facilement exploitable d'ailleurs. Et on voit déjà que ça a une forme avec un pic qui est en 64. Et l'extraction, alors en rouge, c'est la production, ce qu'on sort vraiment. On voit qu'il y a un décalage d'à peu près 45 ou 46, je ne sais plus, 45 ans, entre le moment où on atteint le pic de découverte et au moment où on atteint le pic de production. Il y a une convergence d'études qui montrent que le pic de production, on l'aurait atteint déjà en 2006. La question, c'est ça, où on en est? Alors, l'Agence internationale de l'énergie estime donc que le pic de production a été franchi en 2006 et que la moitié des 20 premiers producteurs de pétrole, qui représentent plus des trois quarts de la production mondiale, ont déjà franchi ce pic. Il y a les USA, la Russie, l'Iran, l'Irak, le Venezuela, la Norvège, l'Algérie, la Libye, tous ces gens-là ont franchi le pic de production. Ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent de produire, mais c'est plus dans la courbe ascendante de la production. Dans les années 60, quand on consommait un baril, on en découvrait 6 nouveaux. On avait des gisements, 6 nouveaux. En 2012, pour 7 barils consommés, on n'en trouve plus que un nouveau, c'est-à-dire 42 fois moins. Et tout ça avec une technologie qui est beaucoup plus performante que dans les années 60. Donc là, c'est quelques citations, moi je vais passer rapidement, d'organismes spécialisés dans l'énergie, dans la recherche d'énergie. L'ère du pétrole facilement accessible est révolue, nous entrons dans une nouvelle époque. Donc je passe rapidement pour examiner un peu le début des alternatives possibles. Les pétroles non conventionnels peuvent-ils remplacer le brut conventionnel? Donc les non conventionnels, c'est pétrole et gaz de schiste, sable bitumineux, offshore de grande profondeur, biocarburant. Et là, Pablo Servigne et Raphaël Stevens reprennent une notion qui existe depuis quelques années, qui s'appelle le taux de retour énergétique. C'est facile à comprendre. C'est qu'il faut de l'énergie pour aller chercher de l'énergie. Pour creuser un puits de pétrole, il faut forer, donc il faut dépenser de l'énergie. Pour fabriquer une éolienne, il faut de l'énergie pour la fabriquer, l'éolienne. Et Évidemment, si on dépense autant ou plus d'énergie qu'on en récupère, ça ne sert à rien. Au début du XXe siècle, aux États-Unis, dans le Texas, quand on dépensait une unité d'énergie, on en récupérait 100. Dans les années 90, pour une unité, on en récupérait plus que 35. Et aujourd'hui, les estimations montrent que pour la production mondiale de pétrole, dans le monde, le TRE qui peut changer suivant les évaluateurs, mais il se situe entre 10 et 20, on commence à être sérieusement loin des 100 du Texas. Alors, quid du TRE des énergies non conventionnelles, fossiles non conventionnelles ou pas fossiles d'ailleurs? Le pétrole de schiste, il est de 5 pour 1. Les sables bitumineux entre 2 et 4. Donc c'est très bas tout ça par rapport à ce qu'on a vu de la période de la croissance de nos sociétés où il y avait le pétrole à gogo et qui coûtait vraiment très cher. Gaz naturel, 10 pour 1. Le charbon, c'est pas mal du tout. Mais enfin, tous ces TRE, tous ces taux de retour énergétique, de rendement énergétique, sont en déclin. Et c'est un déclin qui s'accélère. C'est-à-dire qu'ils sont tous en baisse. Donc, cette image pour montrer que l'évaluation des TRE varie suivant les sources. Là, on retrouve des évaluations. Alors, parfois, elles sont plus pessimistes que celles que je vous ai données. D'autres fois, elles sont plus optimistes. Mais elles ne sont jamais très éloignées les unes des autres. Alors, la grande question, est-ce que le salut peut venir des énergies de flux? Les énergies de flux, c'est des énergies qui sont quasi inépuisables. L'énergie solaire, c'est pas demain matin qu'on n'aura plus d'énergie solaire. L'énergie éolienne, également. Donc, c'est du flux, c'est pas du stock. Si c'est pas du stock, il n'y a pas de pic. Il n'y a pas de pic de production, il n'y a pas de pic de consommation. Mais elle demande quand même une énergie pour être captée. Cette énergie permet de calculer également un TRE. Et le taux, alors l'énergie solaire de concentration, c'est les fours solaires comme Odeio, c'est ce type de choses qu'on construit là, je crois que c'est en Israël aussi, ils en construisent un. C'est un TRE qui est vraiment pas bon, mais bon, il est faible, il existe. La grosse installation photovoltaïque qui est en Espagne, on a un TRE de 2,5 sur 1. L'éolien, c'est ce qui donne les meilleurs résultats, c'est 18 pour 1. Si ça, c'est hors intermittence, si on réintroduit l'intermittence de l'éolien, c'est-à-dire ce qui permet de compenser ces défauts, etc., on tombe à 3,8. L'hydroélectricité est très bonne, 35-49, mais le problème, c'est que l'hydroélectricité, c'est limité en capacité d'installation, et déjà dans le monde, c'est très largement utilisé. Donc là, on retrouve des chiffres que je viens de vous citer, qui varient aussi un peu, mais encore une fois, les agrocarburants, c'est une catastrophe en termes de TRE, et en termes écologiques, bon. Alors, j'ai mis quasiment entre parenthèses dans tout ça, comme ça vous l'avez tous présent à l'esprit, les aspects écologiques en termes de réchauffement climatique. Pour l'instant, on n'en parle pas. Mais c'est une conséquence directe de tout ce qui est dit là. Alors, si on regarde maintenant à l'échelle de... On étale des millénaires... On voit très bien nous, où on se situe, la société industrielle, là, elle est aux alentours un peu avant 2000, un peu après 2000. Elle a vécu essentiellement avec des énergies non renouvelables. Et si demain, ces énergies non renouvelables ne sont pas renouvelées, ce qui est de forte probabilité, ça veut dire que si on veut continuer à vivre avec le niveau de vie qu'on a, ça veut dire qu'il faut que des énergies renouvelables qu'on voit sur la partie... amène tout ça en termes d'énergie. Ça donne une idée, là aussi, en termes d'ordre de grandeur. C'est des ordres de grandeur qui sont fantastiques. Ça veut dire que c'est pas trois éoliennes autour de l'E4. Là, c'est remplacer la totalité des énergies fossiles qu'on a, qui nous ont permis de vivre comme on vit. Tu vas le voir. On va le voir. Alors, quelle est la contribution là? Alors, ça date un peu, puisque c'est 2010, encore une fois.
Oui, un pic du revenu. C'est sous-texte ou sous la PRE, je ne sais pas où, mais c'est le revenu.
Alors, on en reparlera du nucléaire. Mais le nucléaire, de toute façon, c'est une énergie de stock comme les autres. Hein. Il y a un pic. Et à partir du moment où il y a un stock, il y a un pic. C'est tout vu. Hein. Alors, la contribution nucléaire, on va la voir. Donc, la contribution des énergies de flux en 2010 à la consommation mondiale d'énergie, Alors, de flux, pas une. Si on prend le renouvelable, c'est le bois, hein, le bois et les biomasses qui servent au chauffage essentiellement. C'est de loin la plus forte contribution aux énergies renouvelables, c'est le bois. Mais les deux dont on parle beaucoup, nous, c'est l'éolien. L'éolien, il représentait en 2010, il faudrait l'actualiser, mais ça n'aura pas monté d'une manière extraordinaire, 0,57% de la consommation mondiale d'énergie. 0,57%. Quant au photovoltaïque, dont on parle beaucoup, il représente 0,07%. 0,07%. Donc, c'est pour l'instant des contributions qui sont quasiment inaudibles. Enfin, là, sur ce schéma, vous avez les différentes énergies primaires qui sont consommées dans le monde. Le marron, c'est le charbon. Le bleu clair, c'est le pétrole. Le bleu foncé, c'est le gaz naturel. Alors, le nucléaire, c'est le jaune. C'est le jaune nucléaire. Celui qui est en... Attendez, c'est lequel celui-là?
En vert.
C'est les biocarburants, bois, verre, etc. Et au-dessus, vous le voyez à peine, il y a un petit trait gris. Ça, c'est les énergies renouvelables, les énergies de flux. Donc là, c'est actualisé. Là, on est en 2015, on est déjà plus près d'aujourd'hui. Donc ce petit truc qui est en haut est censé, à terme, remplacer pratiquement tout ce qui est en dessous. Là. Alors, il y a des projections qui ont été faites. Ça, c'est des sources Agence internationale de l'énergie. Donc, c'est pas un lobby de qui que ce soit. L'Agence internationale de l'énergie, c'est tous les pays du monde qui contribuent. C'est des experts qui contribuent à cet organisme.
Il faut juste préciser qu'elle se base sur les données que lui donnent les pays et qu'il y a des pays qui ont des intérêts à, par exemple, surélever leurs ressources en pétrole pour dire qu'on continue leur acheter.
Ouais.
Même si on peut estimer quand même que c'est limité.
Ouais.
Mais globalement, de toute façon, il y a une baisse.
Donc là, on voit les projections à 2040. Alors, un petit mot d'explication. Je me place sur 2040. Il y a deux estimations. La première, là, c'est ce qui va le plus haut. C'est donc la consommation d'énergie, la fourniture en énergie pour la consommation mondiale, telle que les pays se sont engagés à faire en tenant compte de la COP21 et des conséquences sur le réchauffement climatique. C'est ce à quoi ils sont engagés. Donc déjà en 2040, par rapport au schéma précédent, il n'y a pas une superbe évolution. Vous avez des énergies de flux, elles sont tout à fait en haut. Mais en bas, on retrouve quand même toutes les énergies fossiles, même si on compare par rapport à aujourd'hui, là, 2020, si vous regardez... marron, bleu clair, bleu foncé, ça n'a pas super bougé, à part qu'il y a un peu plus de consommation de pétrole qu'aujourd'hui. C'est pas forcément bien. Et la deuxième colonne, c'est ce qu'il faudrait avoir comme production d'énergie si on voulait limiter le réchauffement climatique à 2%, comme c'est l'engagement qui a été pris, je pense, à 2 degrés, qu'est-ce que j'ai dit, 2%, excuse-moi, ouais, à 2 degrés, qui est l'engagement, si je me souviens bien, de la COP21. Déjà, on voit la différence entre la tenue des deux. Alors, un autre schéma qui montre des ordres de grandeur qui montre la difficulté à ce que les énergies de flux arrivent à suppléer à la chute des énergies fossiles, c'est que on voit le pic de production mondiale des énergies fossiles et on voit les besoins d'énergie renouvelable qu'il faudrait avoir. Donc ils sont tout simplement énormes. Là, c'est la consommation énergétique mondiale. Bon, peu importe. On voit encore que c'est le pétrole qui est quand même le plus consommé. Après, c'est le charbon, le gaz naturel est beaucoup plus bas. L'hydro est très 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 bas, le renouvelable. Alors là, une spécialiste de l'énergie, elle exprime ça aussi d'une autre manière. Elle dit : il n'y a pas assez d'énergie fossile. Et de minerais pour développer massivement les énergies renouvelables de façon à compenser le déclin des énergies fossiles. Explication. Ça veut dire que pour construire les millions d'éoliennes et les centaines de milliers de panneaux solaires, pour ça, on utilise aujourd'hui l'énergie fossile qui est gratuite. Donc les énergies, quand on nous dit « Ah, mais c'est rentable !» Oui, c'est rentable. C'est rentable parce que c'est fabriqué avec une énergie qui est gratuite. Mais si demain on doit construire des éoliennes ou des panneaux solaires avec l'énergie produite par les éoliennes et les panneaux solaires, ça ne va pas du tout être les mêmes prix. Alors déjà, c'est une notion qu'il faut capter, c'est que les énergies fossiles sont absolument nécessaires aujourd'hui pour pouvoir avoir des énergies renouvelables.
Justement, est-ce qu'on n'a pas un peu de marge, hein? Moi, je ne connais rien, mais j'ai écouté l'autre jour une conférence, parce qu'il y a 40 ans, on disait que le pétrole, d'ici à peu près, je me trompe peut-être sur les chiffres, vous pouvez me corriger, dans 40 ans, il n'y en aurait quasiment plus. Et aujourd'hui, on dit qu'il y en a au moins pour 40 ans, de l'hypothèse la plus basse, il y en a encore pour 40 ans de pétrole.
Admettons qu'on dise 40. Alors,
les ressources sont limitées, on est d'accord.
Oui, mais quand vous dites, on disait qu'il y en a 40, quand maintenant aujourd'hui, ça sera dans 40 ans, mais 40 ans, c'est demain, je suis désolé.
Non, mais ça nous laisse un petit peu de temps pour...
Non, mais encore une fois, on est dans les ordres de grandeur. Quand les gens disent que ça sera dans 40 ans, on est dans l'ordre de grandeur. C'est-à-dire, c'est pas dans 200 ans, 300 ans ou 1000 ans. 40 ans, c'est dans la vie de ma petite fille. Ok, c'est la vie de gens qui vivent aujourd'hui. Donc, effectivement, les estimations, c'est pour ça que tous ces chiffres sont discutables, parce que les évaluations bougent. C'est vrai que, alors je vais en dire deux mots, qu'aux États-Unis, on a exploité le gaz de schiste, ce qui fait que les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole aujourd'hui. On dit « Ah, c'était pas prévu !» Et donc, on a décalé le pic. Non, rien du tout. Parce que le gaz de schiste, il est de plus en plus difficile à exploiter et ça ne va pas durer. Encore une fois, c'est l'ordre de grandeur qui est important. C'est l'ordre de grandeur en termes d'années, en termes de quantité ou en termes d'années. C'est savoir si on est nos sociétés, ceux qui vivent aujourd'hui sont concernés. Je me sens moins concerné que ma petite fille, c'est vrai.
Excusez-moi, bon, pour que ce soit pas mal compris, je crois que là il parle en fait de vitesse du déclin des énergies fossiles, c'est-à-dire qu'il dit que les énergies fossiles déclinent si vite que ça ne permet pas de lancer des énergies renouvelables assez vite pour compenser, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est une question de différence de pente des groupes, donc ça donne l'impression que la quantité est insuffisante.
Non, c'est une course de vitesse. C'est une course de vitesse.
De toute façon, ça va aller à la vitesse.
Je donne un paramètre très important dans ce que je dis et ce que j'entends, c'est la consommation d'énergie faramineuse liée à Internet.
Alors,
c'est pas fait diminuer.
Alors, je ne l'ai pas mis, mais je peux t'en dire un mot. Oui. Alors, effectivement, on a parlé de la machine à vapeur, du moteur thermique, c'est les révolutions industrielles, et puis aujourd'hui, on est dans la révolution numérique, qui est la révolution de l'information. On utilise ces machines, on a l'impression qu'elles ne consomment pas d'énergie. Il y a des gens qui ont fait le calcul. Un mail, c'est 10 watts. Alors moi, j'ai fait le calcul, 10 watts. Alors on dit qu'il y a 1 milliard de mails, je crois, qui s'échangent tous les jours. En gros, aujourd'hui, pour l'énergie nécessaire pour permettre des échanges de mails, ça nécessite l'énergie que produira la centrale de Flamanville, celle qui est pas l'EPR de Flamanville, quand il sera actif. Il faut une centrale EPR comme Flamanville, rien que pour les mails simples, hein, pas les les mails mondiaux. Alors, oui, mais alors attends, ça, on est en train de parler que des mails, mais quand vous faites du streaming, c'est une horreur.
C'est un étang. C'est. Ça répondra tous à 50 personnes sur les
États-Unis. C'est énorme. Une requête sur Google, c'est l'équivalent en énergie de
1 litre. Alors, ces évaluations sont faites. On le sait. Et effectivement, ça accroît les besoins en énergie pour avoir. J'appelle ça notre niveau de vie, notre manière de vivre. C'est-à-dire que l'introduction de l'informatique. Rajoute à nos besoins d'énergie. Et encore une fois, effectivement, il sait calculer, c'est évaluer.
C'est une question de rajouter sur le graphique, justement, qui montrait. Sur le graphique, on avait les vêtements, l'alimentation.
Alors, ça y est. C'est ce qu'on appelle l'énergie non spécifique. L'énergie non spécifique, c'est les utilisations non thermiques de l'énergie. C'est donc le chauffage électrique, c'est une chose, et puis ça, pour ça y est. Alors, il y a des gens aussi qui ont introduit donc la notion de TRE extensif, c'est-à-dire c'est l'énergie qui revient à la société, le rapport entre cette énergie sur l'énergie investie pour récupérer de l'énergie, pour la livrer et aussi pour pouvoir l'utiliser. Et si on fait ce TRE extensif, des gens sont arrivés à dire bon, mais pour maintenir les niveaux de services actuellement offerts à la population, il faudrait qu'on ait des TRE qui se situent entre 12 et 13. C'est presque trop précis, ça. 12 et 13. Si on est en dessous de ça, eh bien, il va falloir faire des choix. Il va falloir savoir dans quoi on sabre, est-ce qu'on sabre dans la production alimentaire, dans l'habitat, dans le chauffage, dans les vêtements, dans le système sanitaire, ou dans la justice, le transport, vous savez pas, non, c'est bizarre, non, ça y est, ça devrait y être, je crois qu'il est viré, non, c'est une erreur, mais la justice, la sécurité nationale, parce que les services justice, ça consomme de l'énergie. Tout ce qui est prestation de service, ça consomme de l'énergie. Et on est dans des sociétés, on sait très bien qu'on a réduit le secteur primaire agricole à trois fois rien. En France, c'est devenu à 1 ou 2%. On a réduit le secteur. Alors, les travailleurs du primaire sont allés dans le secondaire. Pendant un moment, on avait le secteur industriel important. On l'a réduit avec l'automatisation et on continue avec l'informatisation, la robotisation, et on a développé beaucoup le secteur des services. Et d'ailleurs, on présentait ça comme étant le comble de la modernité d'une société moderne, c'est d'avoir un secteur des services important. Oui, mais les services, c'est aussi de la consommation d'énergie. Et donc, il va falloir taper donc quelque chose dans tous ces trucs-là. Mais ça veut dire qu'on tape dans notre manière de vivre. Et le problème, c'est qu'on a montré, c'est que même pour les énergies renouvelables, on approche du seuil de 12, 13, voire on est en dessous. Une autre manière de voir aussi les choses, ça c'est un schéma qui est dans le livre de Pablo Servigne et de Stevens. Il montre que quand le TRE du pétrole passe en dessous de 10, ça devient une fonction exponentielle, et là, le prix s'envole. Ce type de courbe, en fait, on le retrouve, pas que pour le pétrole, mais on le trouve aussi pour les minerais, c'est-à-dire que ce soit le gaz, vraiment l'uranium, mais aussi les minerais qui servent aux ordinateurs. C'est-à-dire, quand demain, on sera dans la partie basse de la courbe du coltan, du cobalt, du lithium ou de tout ça, hop, ça y est, zut, on va être dans la partie exponentielle, et donc il va se passer des choses. Donc c'est vrai pour tous les matériaux et les minerais qui servent à fabriquer des convertisseurs d'énergie de flux. Ce qui fait dire à Servigne et Stevens, le déclin inexorable du TRE des énergies fossiles rendra la promesse de croissance économique impossible à tenir. Là, on est dans le noir absolu. Et une courbe montre qu'il y a une corrélation entre l'énergie et le PIB. Cette courbe, c'est les taux de croissance de l'énergie, taux de croissance du PIB. On voit qu'ils sont totalement corrélés. La croissance de l'énergie et le PIB, ça marche ensemble. Soit vous diminuez un, c'est l'autre qui diminue, et réciproquement. Ce qui fait dire à des gens comme Jean Covici qu'en fait, le modèle économique qu'on nous apprend à l'école, qui est travail plus capital mis dans un système productif, soit dans une production, vous dit ça c'est faux, ça ne marche pas comme ça. C'est le travail plus l'énergie. Le capital, lui, c'est une boucle de rétroaction, parce que le capital, il se nourrit de la production. C'est travail, ressources, donc capital, dans le système productif, amène à la production. Ce que disent implicitement Jean Covici, implicitement les autres, c'est que du travail humain, on en a plein. On est des milliards d'individus. Mais si on a du travail, mais si on n'a pas d'énergie, on n'est plus dans nos sociétés. On n'est plus dans ce cadre de figure. Donc si le côté ressources diminue, le système productif s'écroule, le capital s'écroule, et on est dans des problèmes sérieux. Alors il y a une énergie très particulière dont certains disent « Waouh, ça, si ça marche, on est sauvé. » Ça s'appelle la fusion thermonucléaire contrôlée. Alors, c'est quoi la fusion thermonucléaire contrôlée? L'idée, c'est de faire fusionner deux atomes légers. Alors, vous avez l'explication là. Prenons, alors ça peut être deux atomes de deutérium, par exemple. Ça prend volontairement deux atomes de deutérium. Pourquoi? Parce que le deutérium, il y en a à profusion, même dans l'eau de mer. Et en gros, ce processus... Alors, l'idée, c'est que dans la fusion, quand on oblige deux atomes légers à fusionner, ils fusionnent, ils donnent un atome qui est plus lourd, et ils libèrent de l'énergie. C'est la bombe H. Dans la fission, on casse un atome, et dans la cassure, on récupère de l'énergie. La fission, on sait très bien faire. Bon. La fusion, les conditions de réalisation de la fusion sont tellement invraisemblables que personne ne se hasarde à prédire le jour où on saura le faire. Pourquoi? Parce que pour faire de la fusion, il faut être capable de maintenir une espèce de soupe de plasma, c'est plus des soupes de plasma, à la température fabuleuse de 100 millions de degrés centigrades. 100 millions de degrés centigrades, ou 110 millions, c'est 10 fois plus chaud que le cœur du Soleil. Alors il faut qu'on construise un bâtiment, en dur, puis dans ce bâtiment, on va trouver un moyen où, dans nos petites mimines, on va arriver à mettre 110 millions de degrés, il y a 10 fois plus que le Soleil, et à récupérer l'énergie qui sera produite. Alors il y a des ingénieurs assez fous pour dire, on va chercher, on va essayer. Donc là, les plus fous, ça a été les Soviétiques, ils ont commencé, c'est très vieux, ils ont fait ça déjà, je crois que c'est dans les années 50, et ils ont inventé un truc qui s'appelle le tokamak, c'est l'image, ça c'est un tokamak. Là. Et le tokamak, c'est l'idée, c'est dire, ce placement, on va créer des champs électromagnétiques intenses, et puisque ça ne peut pas être au contact de la matière, c'est impossible. Il n'y a pas une matière qui peut résister à ça. Donc on va le maintenir dans un champ magnétique intense, et puis on va essayer d'en contrôler la réaction. Les chercheurs cherchent sur ça. ITER, qui est installé en France, qui est financé par tous les grands pays de la planète. Pourquoi? Tout le monde met au pot. Parce que c'est le truc dont on n'est absolument pas certain qu'on y arrivera un jour. Mais si on y arrive, alors là, on arrête tout le discours précédent, on dit, hop, ça y est, on a de l'énergie pour, je ne sais plus combien, 100 millions d'années. Enfin, c'est
indéfiniment.
Quasi infini. Alors où on en est? C'est que jusqu'à maintenant, on cherche. Alors il y a deux techniques, le tokamak, il y a une autre technique qui s'appelle le laser mégajoule qui fait 1 million de milliards de watts, avec lequel on a réussi à faire une fusion contrôlée qui a duré 1 millième de milliardième de seconde. C'est pas encore franchement l'usine nucléaire. Hein. Et c'est d'autant moins que ça a consommé plus d'énergie qu'on en a obtenu. Donc là, c'est de la recherche. Donc, conclusion de Servine, Stevens, mais pas que de lui. de plein d'intervenants que j'ai mentionnés là, mais il y en a d'autres. Le déclin énergétique annonce la fin définitive de la croissance mondiale, et la fin de la croissance mondiale, c'est le déclin de notre manière de vivre. Alors après, encore une fois, c'est pas, ça ne va pas être un truc qui va se passer d'un coup, mais c'est un peu l'histoire de la grenouille. Hein. C'est la grenouille qu'on met dans la casserole et le froide, dans l'eau froide, et puis on chauffe, et puis elle dit, bon, ben là, c'est bon. Ce dont on parle, évidemment, comment on peut prendre ça en compte du point de vue politique, c'est, ça peut faire partie du débat, mais la grenouille, on est la grenouille, on est dans l'eau froide pour l'instant, puis la température monte, et puis à un moment donné, on se trouve, ah, c'est tiède, mais pas mal, et puis, ah, c'est chaud, attends, c'est super chaud, et là, ça y est, on commence à se détruire, et à perdre la façon dont on vit. Alors, garder le moral, donc là, je...
Un étudiant m'a demandé si ses petits-enfants pourront encore prendre l'avion. C'est une question pertinente, parce que la réponse pourrait bien être non. La majeure partie du trafic aérien s'arrêtera. Beaucoup de gens pensent que c'est l'argent qui fait tourner le monde. Alors qu'en fait, c'est l'énergie bon marché, largement dérivée du pétrole. On finit par se demander ce qui est le plus réel, le marché financier ou les gisements de pétrole dans le sol. Et tout le monde arrive à la même conclusion, ce sont les gisements de pétrole. Le système financier regorge de pétrodollars. Si on les retire, il va forcément se contracter. Il n'y a pas une société cotée en bourse qui ne mise pas implicitement sur un pétrole bon marché. Or, cette époque-là est déjà révolue. Donc, presque toutes les entreprises cotées sont en fait surévaluées. Lorsque la communauté financière en prendra conscience, on risque d'assister à des réactions exagérées et à un effondrement de la bourse. Je ne serais pas surpris que cela provoque une crise comparable à la Grande Dépression des années 30, voire pire. Puisque la crise sera imposée par la nature elle-même et non par la spéculation boursière.
Combien d'individus la Terre peut-elle faire vivre en l'absence de combustibles fossiles? Beaucoup de gens disent 1,5 milliard, voire 2 milliards. Généralement, on n'aime pas se tromper, mais là, je l'espère sincèrement, comme d'ailleurs tous les gens qui se préoccupent du pic de pétrole. Malheureusement, je pense qu'on a raison.
Voilà pour la gaieté. Alors quand même, maintenant, sourire en clin d'œil, c'est qu'il y en a un qui avait imaginé un peu tout ça, il s'appelle Rezer. Il est décédé en 83. C'était au moment de la crise, de la crise pétrolière.
Il ne reste plus qu'à mourir,
vous ne pourrez même pas être résilé. Voilà. Moi, c'est ce que je trouve. Ça. Voilà, bon, ben moi, je termine sur.
Je voudrais le dire pour Ama avec le compte rendu,
mais. Je termine sur Rezer. Tout à
fait,
Rezer. Bravo. Ouais, Alain.